des photos parce que là, j'arrive pas à bien. On aurait des photos après. Des photos. Bouge pas.
Pierre Gemelletti, de m'avoir accueilli aujourd'hui au sein de votre société. C'est un très grand plaisir pour moi. Cette conférence que vous allez, à laquelle vous allez assister était prévue pour 2020, mais la pandémie du Covid a décidé autrement. En effet, en 2020, c'était le bicentenaire de la naissance à Turin de celui qui allait prendre en main la destinée de la péninsule italienne pour aboutir à la naissance d'une nation Italie. Donc je vous disais, Victor Emmanuel II, que l'histoire italienne nomme à juste titre père de la nation. Alors pour évoquer ce personnage vraiment hors du commun, il faut que nous nous replongions dans l'histoire très particulière de la péninsule italienne, qui, à la différence de la France, l'Angleterre ou l'Espagne, qui sont constituées en état-nation depuis le Moyen-Âge, la péninsule italienne, depuis la chute de l'Empire romain, Et me rapprocher et je le ferai, je vais le faire comme ça. Depuis la chute de l'Empire romain, est divisé en plusieurs royaumes et duchés, et cela bien qu'il partage une même origine à la fois linguistique et religieuse. À la fin du XVIIIe siècle, les bouleversements de la France révolutionnaire connaissent des échos au-delà des Alpes. Après la proclamation de la République en France en septembre 1792, des conspirations républicaines ont lieu à Turin, en Sardaigne, à Naples, à Bologne, à Gênes, à Palerme, un peu de partout, et elles sont chaque fois vigoureusement réprimées par les souverains concernés. Mais malgré tout, le feu ne cesse de couver. Au-delà, au début du 19e siècle, Napoléon Bonaparte, qui s'est déjà couronné empereur, s'octroie en plus le titre de roi d'Italie, mais sa chute et la mainmise de l'Empire autrichien sur la plupart des divers royaumes et duchés ramènent la péninsule italienne à sa situation antérieure de morcellement.
Tu aurais dû prendre ton ordinateur. Oui. Tu n'arrives pas à avancer. Le
déclencheur.
Un gros problème.
Excusez-moi pour ce petit. Voilà, je vous ai dit, je vous disais donc que la péninsule italienne revient à sa situation antérieure de morcellement, avec d'un côté la France qui sert d'exemple et sur laquelle on va beaucoup compter, et de l'autre l'Empire autrichien qui exerce son pouvoir dominateur et dont on voudrait se débarrasser. Si bien qu'en 1820, la photographie politique de la péninsule italienne est la suivante. La moitié sud et la Sicile constituent le royaume des deux Siciles, dirigé par la maison Bourbon-Sicile avec Naples comme capitale. Au centre, sous l'influence autrichienne, se trouvent les États pontificaux avec Rome pour capitale et le pape Pie VII qui mourra en 1823 et qui sera remplacé par Léon XII. Le duché de Modène, avec à sa tête le duc François IV, qui est aussi archiduc d'Autriche, Este. Le duché de Parme, avec Marie-Louise d'Autriche, la seconde épouse de Napoléon Ier. Le duché de Toscane, avec Florence comme capitale. Et au nord, le royaume lombardo-vénitien, sous la domination autrichienne. Seul, le royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par la maison de Savoie, jouit d'une totale indépendance. Et à cette époque, on rêve donc de s'affranchir de la tutelle de l'Autriche et de réunir les royaumes et duchés de la péninsule en un seul et même État. Alors que certains rêvent d'une république comme Giuseppe Mazzini, révolutionnaire et patriote italien à l'origine du mouvement Jeune Italie, d'autres comme Cavour, à Turin, rêve d'étendre le nord de la péninsule au royaume de Piémont, et il créera d'ailleurs en 1847 un journal, le Risorgimento, il Risorgimento qu'on peut traduire par la Renaissance, et qui donnera son nom au processus d'unification de l'Italie. Mais en cette année 1820, la plupart des Piémontais a l'esprit préoccupé par un tout autre événement, une naissance royale, le roi Charles Albert et son épouse, Marie-Thérèse, fille du grand-duc Ferdinand III de Toscane, attendent leur premier enfant. Victor Emmanuel naît à Turin le 14 mars 1820 au Palazzo Carignan pour la plus grande fierté et la plus grande joie des Turinois. D'ailleurs, à ce propos, une petite parenthèse, une petite anecdote. Quand Victor Emmanuel décédera en 1878, Francesco Crispi, alors ministre de l'Intérieur, chargé de dresser l'acte mortuaire du roi défunt, le fera naître à Florence. Ce qui froissera terriblement les Turinois, et l'inscription gravée sur la plaque de cuivre du cercueil a dû être modifiée en urgence. Alors l'enfance de Victor Emmanuel, le bébé royal, se porte bien jusqu'à ce qu'un événement survienne en 1822 et qui fera polémique et dont on parle encore même aujourd'hui avec passion. Nous sommes le soir du 16 septembre 1822, la famille royale se trouve à Florence. À la Villa del Poggio Imperiale, où Charles Albert s'est réfugié chez son beau-père, Ferdinand III, grand-duc de Toscane, pour fuir la colère de son cousin, le duc Charles-Félix de Savoie, dit le bien-aimé, roi de Sardaigne, en prise avec les graves désordres politiques qui commencent à envahir la capitale piémontaise dès mars 1821. Alors que la famille se trouve dans un salon voisin, la nourrice veille sur le bébé qui dort, quand une chandelle est malencontreusement renversée et donne le feu au berceau. Aussitôt, l'incendie prend de l'importance, la nourrice réussit à soustraire l'enfant des flammes, mais dans la précipitation, ses vêtements prennent feu et elle périt brûlée vive. Ainsi alors que s'est installé le doute, laissant entendre qu'il est peu probable que l'incendie ait pu tuer la nourrice et épargner l'enfant. D'ailleurs, en raison de l'énorme différence de physionomie avec son père, qui apparaît dès le plus jeune âge, des voix commencent à douter que Victor Emmanuel soit le fils du couple royal, soit un enfant d'origine populaire, pris pour remplacer le vrai fils de Charles Albert. Certains auteurs ont même donné crédit à cette version, qui était récusée pendant plus d'un siècle, basant leur déduction outre les évidentes disparités physiques sur les études des procès-verbaux rédigés par le caporal des pompiers, quant au présumé père de Victor Emmanuel, déjà au XIXe siècle, circulait le nom de Tanaka, un boucher, qui aurait eu un enfant à peu près du même âge et qui serait devenu subitement très riche. On ne connaissait pas les réseaux sociaux à cette époque-là, mais les informations circulaient déjà très bien. Alors néanmoins, étant donné la grossesse avancée de Marie-Thérèse et la naissance de leur deuxième fils, Ferdinand, le 15 novembre, à peine 2 mois après l'incendie, ça rend, disons, un stratagème plutôt absurde. Personnellement, je vois difficilement une mère noyée dans le chagrin se consoler avec un enfant de substitution. Hein, c'est pas joué. Mais les fake news existaient déjà à cette époque. Victor Emmanuel passe donc les premières années de sa vie à Florence, où son éducation est confiée au précepteur Giuseppe d'Apolmida, lieutenant général des armées et fervent partisan de l'unité italienne, et il éduque le jeune prince avec une discipline militaire. Sa mère le dépeint comme un enfant vif, turbulent et très doux de caractère. Elle écrit dans une de ses lettres, il est fort docile, cependant, il a quelques difficultés à comprendre, voulant sans cesse courir ou sauter. Et lorsqu'il a appris une chose, il l'oublie difficilement. De son côté, Charles Albert, lettré, ami des choses de l'esprit, devine très vite les instincts de son fils. Celui-ci présente un goût exclusif pour tout ce qui est militaire et pour tous les exercices physiques. Et à la mort du roi de Sardaigne, Charles-Félix, le 27 avril 1831, c'est Charles Albert qui lui succède. Et conscient de l'importance de son rôle, il assure à ses enfants une éducation royale. Dès leur plus jeune âge, Victor et Ferdinand sont éduqués par des précepteurs renommés, parmi lesquels le comte Cesare Saluzzo, le général Ettore de Somas, l'historien Lorenzo Isnardi, le juriste Giuseppe Mano et surtout le théologien André Charvaz. Seulement, malgré les efforts de cette équipe de maîtres très attentionnés, les résultats ne sont pas à la hauteur, vu l'attitude un petit peu réfractaire de Victor Emmanuel pour les études. Les journées étaient quand même bien chargées, hein, avec même deux messes le dimanche. L'abbé Charvaz gagne la confiance des parents et surtout de Marie-Thérèse. Victor Emmanuel et son frère sont très attachés à l'abbé. Pendant l'été 1828, celui-ci profite de quelques semaines de congé pour se rendre auprès des siens à Brie-de-l'Évêque. Le 19 juillet, Victor Emmanuel lui écrit cette lettre. Monsieur l'abbé, je suis bien content de savoir écrire à présent que vous êtes éloigné de moi. Je veux, par mon cher abbé, beaucoup m'appliquer à étudier afin que vous soyez satisfait à votre retour. Je serai bien content de vous revoir, Ferdinand aussi, et il vous donne bien le bonjour. Papa est allé à la chasse au chamois et nous a apporté une petite marmotte vivante qui est bien jolie. Rappelez-vous de moi, monsieur l'abbé. Priez pour moi et croyez-moi pour toujours votre bien affectionné Victor de Savoie. Seulement, malgré ses efforts, l'abbé Charvaz se sent impuissant. Il écrit au roi et lui présente même sa démission, qui lui est évidemment refusée. D'ailleurs, cette lettre de démission n'est pas encore arrivée à son destinataire quand le jeune prince écrit de son côté à son disciple précepteur une lettre d'un ton sensiblement différent. Monsieur l'abbé, maman m'a permis de vous écrire parce que j'ai été un peu plus sage. Et ce qui me fait grand plaisir, j'ai appris avec très grand plaisir que vous avez fait un bon voyage et que vous vous portez bien. Savez-vous, monsieur l'abbé, que j'ai depuis votre départ 85 leçons bien, 80 passables, une mal, qui me déplaît infiniment, et deux très bien, dont un pour la grammaire, le premier jour d'examen après votre départ. J'espère que vous reviendrez bientôt et que vous me trouverez plus sage qu'auparavant. À Konichi, le 14 août 1829, Victor de Savoie. De loin, il préfère se consacrer aux chevaux, on le voit souvent dans les écuries, à la chasse ou encore à l'escrime, et bien sûr aux excursions en montagne. Il est cependant éduqué comme un futur roi, avec beaucoup de sévérité et de sérieux, surveillé par un père inquiet de nature. Son éducation militaire lui vaut d'obtenir le grade de général. Il affiche tout de suite son caractère. Bien que n'étant pas doué d'une intelligence supérieure, il est doté d'un tempérament vigoureux, décisif et d'une volonté de faire, préférant les activités physiques au faste plutôt ennuyeux de la cour de son père. Le 27 juillet 1838, on le retrouve d'ailleurs dans la vallée de Suse, au sommet du Rocciamelon, à 3528 mètres d'altitude. En 1840, le jeune prince, alors à 20 ans, alors un beau jeune homme de belle prestance, doté d'une moustache et d'un boucle blond, fait la connaissance de sa cousine, Marie Adélaïde de Habsbourg-Lorraine, fille de René d'Autriche, vice-roi de Lombardie-Vénétie et d'une sœur de Charles Albert. Homme aux décisions rapides, il décide d'épouser la jeune fille, les préparatifs royaux sont un peu longs à se mettre en place. Mais finalement, le mariage est célébré le 12 avril 1842 dans la chapelle royale du château de Stupinici. Le couple ne perd pas de temps et la famille ne tarde pas à s'agrandir. De leur union naissent 8 enfants, dont en 1844, Umberto I, futur roi, y succédera à son père. Mais ce bon père de famille n'en est pas moins un coureur de jupons. Et en 1844, alors qu'il est déjà, il a déjà 4 enfants, il rencontre Nora Bon, une actrice de théâtre, de 5 ans plus jeune que lui, qui devient sa maîtresse. Loin d'en rester là, en 1847, il rencontre une autre toute jeune fille qui n'a alors que 14 ans, Rosa Velchelan, fille d'un militaire de carrière, née à Nice en 1833. La famille royale se trouve au château de Racunic, où Charles-Albert est en charge de la garnison militaire du domaine de chasse, et Victor Emmanuel a alors 27 ans. Leurs premières rencontres sont clandestines, aussi bien parce que son père s'y oppose que par la loi du règne sarde qui punit sévèrement les détournements de mineurs. Rosa est accueillie dans une dépendance du parc du pavillon de chasse de Stupinigi et sa liaison avec celle que l'on appelle déjà la belle Rosie est loin d'être passagère, si bien que, prise de jalousie, Laura Beau est écartée et contrainte à quitter le Piémont. Victor Emmanuel a deux enfants avec sa maîtresse, l'un en décembre 1848 et l'autre en mars 1851. Cependant, de graves événements se préparent dans la péninsule. Victor Emmanuel et Ferdinand suivent avec intérêt les passions des préparatifs de guerre. Et on peut alors facilement deviner l'impatience de Victor Emmanuel, connaissant son caractère impétueux et batailleur, le Risorgimento, qui a débuté en 1821, a fait son chemin, et en 1848, l'Europe voit éclater un ensemble de crises connues sous le nom de Printemps des Révolutions ou Printemps des Peuples. Sous-estimer, bien sûr, c'est sous-estimer ces mouvements qui, au fil des ans, ont pris de l'ampleur, ça serait difficile. Dans l'ensemble de la péninsule, on rêve de l'époque où l'Italie était unie. Mais le 22 février 1848, contre toute attente, la France renoue avec la Révolution et en quelques jours, le roi Louis-Philippe abdique et la Deuxième République est proclamée. Et cet événement va être l'élément déclencheur pour d'autres soulèvements. De son côté, le 4 mars 1848, le roi Charles-Albert de Sardaigne rédige pour son peuple une constitution libérale à laquelle on donne le nom de statut albertain. Et cette loi fondamentale, de la plus haute importance, est en fait le statut du royaume de Sardaigne qui succède aux États sardes et qui deviendra la constitution de l'Italie unie le 17 mars 1861. On peut dire que cette loi marque le début de l'unification du pays par le royaume de Piémont-Sardaigne. Alors, les événements s'enchaînent. Le 18 mars 1848, Milan, capitale du royaume lombardo-vénitien, se révolte contre l'Empire autrichien. Et cette révolution, qui dure 5 jours, est connue sous le nom des 5 jours de Milan. La municipalité qui a chassé les Autrichiens, craignant un conflit avec ses opposants républicains et fédéralistes, fait appel à Charles-Albert. Et ce dernier, il voit l'occasion d'agrandir son royaume. Le 23 mars, il déclare la guerre à l'Autriche. Et c'est le début de la première guerre d'indépendance, avec le soutien des États pontificaux, du Grand-Duché de Toscane et du Royaume des Deux Siciles. Il bat le maréchal autrichien Radetzky à Pastrengo le 30 avril. Fort de son succès, Charles-Albert continue son offensive, jusqu'à faire tomber la forteresse autrichienne de Peschiera dans la province de Vérone le 30 mai. Mais Charles-Albert perd l'appui du pape Pie IX qui tout d'un coup réalise qu'il ne peut pas combattre une grande puissance catholique. Et cela donne un prétexte également à Ferdinand II, roi des deux Siciles, pour se retirer du conflit. Et ce front où Charles Albert se retrouve tout seul. Et c'est à cette époque qu'on voit arriver Giuseppe Garibaldi et Giuseppe Mazzini pour participer à la guerre, et cela malgré un accueil peu chaleureux de la part de la maison de Savoie. Charles Albert, isolé, se trouve contraint de capituler. Le 6 août 1848, les Autrichiens rentrent à nouveau dans Milan par la porte romane, et le 9 août, l'armistice est signé. Il s'ensuit une période de trêve dans les incendies qui continuent à couver dans les différents états jusqu'au 20 mars 1849, où Charles Albert se lance à nouveau dans la bataille. Et il est lourdement vaincu le 22 et 23 mars à Novare. Et cette fois, concerne sa défaite et de son impuissance, il abdique en faveur de son fils avec ces paroles qu'il prononce le soir du 23 mars 1849 dans la salle du palais Bellini à Novare. Ecco il vostro re, mio figlio Vittorio. Voici votre roi, mon fils Victor. Ainsi, Victor Emmanuel devient roi à 29 ans. Le moment est tragique avec une armée vaincue et en déroute, des Autrichiens furieux et arrogants, et un peuple déçu et plutôt hostile. Mais il n'est pas homme à se décourager. Il accepte avec sérénité la lourde responsabilité. Et le jour suivant, le matin du 24 mars, il saute sur son cheval à la rencontre de son ennemi, le vieux Radetzky, et signe l'armistice à Vignale, aujourd'hui un quartier de Nova. Ainsi s'achève la première guerre d'indépendance. Charles Albert se retire au Portugal. Gravement malade, il mourra en exil le 28 juillet de la même année. Et donc le 27 mars, le nouveau roi rentre à Turin, accueilli avec froideur par la population et les députés. C'est un homme, tout ce qu'il y a de plus martial, décidé, déjà mûri dans la douleur, qui prend les rênes de son royaume. Tout de suite, il se consacre à ce que seront les deux grands objectifs de sa vie, faire que son règne soit plus fort et plus grand, et acquérir l'indépendance pour l'Italie unifiée. Durant les trois premières années, il est initié aux affaires par Massimo D'Azeglio, qu'il a nommé Premier ministre et ministre des Affaires étrangères le 11 mai 1849. Alors les Autrichiens avaient espéré que le jeune roi abandonne le statut albertain, celui-ci le maintient avec ses garanties constitutionnelles. Et cette attitude prudente fait de ce nouveau roi le champion des libertés et lui vaudra le surnom de roi gentilhomme, il re galantuomo, comme on le verra plus tard. Massimo D'Azeglio est convaincu du rôle majeur que peut encore jouer le royaume de Piémont dans le processus d'unification. Et en octobre 1850, Cavour entre au gouvernement comme ministre de l'Agriculture et du Commerce. Et le 16 mai 1852, D'Azeglio est remplacé par Cavour comme Premier ministre. La situation économique et commerciale du royaume n'ayant fait qu'empirer, Cavour n'envisage plus qu'une solution, la guerre. Mais il est conscient que cette dernière ne peut se réaliser qu'avec l'appui d'une puissance étrangère. Alors, pour s'attirer les bonnes grâces de Napoléon III, en janvier 1855, il engage l'armée piémontaise dans la guerre de Crimée qui oppose la France, l'Angleterre et l'Empire ottoman à la Russie. Et cette initiative n'est cependant pas du goût de Victor Emmanuel qui envisage de se séparer de son ministre. Il faut dire que, de caractère opposé, Victor Emmanuel et Cavour ne s'entendent guère. Pourtant, grâce à son talent incontestable, ce dernier réussira à se maintenir près de 10 ans à ce poste. Autrefois partisan d'un simple agrandissement du royaume de Piémont, il rejoint Victor Emmanuel sur l'idée d'une unification de la péninsule italienne. Les deux hommes ne cessent de se critiquer l'un et l'autre, de se disputer, de ne plus pouvoir se supporter. Mais au bout du compte, si leurs litiges sont restés célèbres, les deux hommes sont inséparables, tout simplement parce que cette collaboration houleuse ne nourrit qu'un seul et même objectif sur lequel ils sont d'accord, l'unification du pays. En Crimée, le corps expéditionnaire sarde d'environ 21 000 hommes, commandé par le général Lamarnoura, opère aux côtés des Britanniques. Le 16 août 1855, il participe notamment à la bataille de Ternay, près de Sébastopol. Au total, les combats, le choléra et les privations font près de 2 400 morts. Et si l'opération se révèle désastreuse, elle permet tout de même au petit État piémontais de faire son entrée sur la scène diplomatique internationale. Cependant, outre avoir vu son père mourir en exil quelques années auparavant, 1855 est pour Victor Emmanuel une année de dure épreuve. Le 12 janvier, sa mère, Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane, décède à l'âge de 54 ans. Le 20 janvier, il perd sa femme, Marie-Adélaïde. À peine remise de sa 8e couche, elle assiste aux obsèques de sa belle-mère le 12 janvier. Elle y prend froid et meurt quelques jours plus tard d'une violente gastro-entérite à l'âge de 33 ans. Et le 10 février, Ferdinand, son frère, de santé fragile, meurt à l'âge de 32 ans. Enfin, le 17 mai, meurt son dernier né à l'âge de 4 mois. Alors on comprend que, se retrouvant seul en si peu de temps, Victor Emmanuel trouve refuge dans l'amour que lui donne la belle Rosie. Le 11 avril 1858, il l'élève au rang de comtesse de Mirafiori et Fontanafred. Mais la politique n'offre aucun répit et l'histoire continue à s'écrire. D'ailleurs, le 21 juillet 1858 a lieu à Plombières-les-Bains la célèbre entrevue diplomatique entre Napoléon III et Cavour avec la signature d'un accord secret par lequel la France accorderait au royaume de Sardaigne son assistance militaire en cas de conflit l'opposant à l'Empire d'Autriche, et en contrepartie, elle obtiendrait le comté de Nice et le duché de Savoie. Aussitôt, Cavour organise avec l'empereur français une série de provocations contre l'Empire autrichien, qui amène l'empereur François-Joseph à poser bien sûr un ultimatum au royaume de Sardaigne. Et le 10 janvier 1859, à l'ouverture du Parlement à Turin, Victor Emmanuel tient ce célèbre discours dit du cri de douleur. Il discorso del grido di dolore. Et il dit ceci: fort de l'expérience du passé, nous allons résolument vers l'avenir, et tout en respectant les traités, nous ne sommes pas insensibles aux cris de douleur qui, de tant de parties de l'Italie, s'élèvent vers nous. Alors ces paroles émeuvent et enthousiasment les Piémontais, et tous les Italiens bien sûr, qui prennent conscience que leur roi risque sa vie, son trône, son état dans la difficile lutte pour l'indépendance italienne. Entre-temps, le mariage, le 30 avril 1859, du prince Jérôme Napoléon avec Marie-Clotilde de Savoie, fille de Victor Emmanuel, peut laisser prévoir des intérêts certains aussi bien pour la France que pour le royaume de Piémont. Et le 26 avril 1859, l'Empire autrichien déclare la guerre au royaume de Sardaigne. La France décide d'honorer ces accords et c'est le début de la deuxième guerre d'indépendance qui va être de courte durée. Napoléon III, en tant qu'allié des Sardes, commande en personne les armées françaises envoyées au-delà des Alpes. De son côté, le commandement de l'armée sarde est assuré par Victor Emmanuel en personne, soutenu par le général de la Marmora. Et c'est à ce moment-là que Giuseppe Mazzini et Giuseppe Garibaldi rentrent alors dans la bataille. Garibaldi est chargé d'organiser un corps de volontaires, les chasseurs alpins, qui battent les Autrichiens à Varese le 26 mai 1859 et à Saint-Ferme le lendemain. De leur côté, les Français et Piémontais remportent la terrible bataille de Magenta le 4 juin 1859 et font une entrée triomphale dans Milan le 7 juin. Alors les Républicains commencent à voir en Victor Emmanuel le seul dirigeant capable de réaliser l'unification. Mais les combats ne sont pas finis. Le 24 juin, c'est la fameuse bataille de Solferino. Victor Emmanuel, à la tête de ses troupes, se bat comme un lion, menant ses hommes à l'assaut, à San Martino. Il leur lance cet encouragement resté célèbre en Piémonté, qui est sa langue préférée. Je voudrais bien le dire en Piémonté, mais... Tu es au Piuma San Martino, au Auti, enfin fait San Martino à nous. Ce qui veut dire, ragazzi, en italien, ragazzi, o prendiamo San Martino, o fanno fare San Martino a noi. En fait, Victor Emmanuel fait de l'esprit, et cela lui ressemble. Il fait un jeu de mots avec San Martino. En effet, la tradition persiste encore en Piémont. C'est le 11 novembre pour la Saint-Martin qu'on renouvelle les baux de location, ou le cas contraire, qu'on vous déloge.
San Martino.
Et c'est ce qu'on appelle en Piémontais faire Saint-Martin. Alors c'est ce que dit Victor Emmanuel. Oh les mecs, ou on prend Saint-Martin, ou ils nous font faire Saint-Martin. C'est-à-dire qu'ils nous délogent. Toujours est-il que les armées franco-piémontaises sortent vainqueurs de cette grande bataille. Et cette guerre, qui n'aura duré que finalement que 2 mois, se termine par l'armistice de Villafranca le 11 juillet 1859. Et le traité de Zurich, signé le 10 novembre, permet la réunion de la Lombardie au royaume de Sardaigne. Le grand-duc de Toscane s'enfuit en Autriche, le duc de Parme se réfugie en Suisse, et le duc de Modène trouve refuge dans le camp autrichien. Les assemblées constituantes de ces 3 duchés votent leur intégration au royaume de Piémont. Et comme ça, le 24 mars 1860, Cavour signe le traité de Turin, qui officialise l'acte par lequel le duché de Savoie et le comté de Nice sont réunis à la France, bien sûr, ce qui n'est pas du goût de Garibaldi qui est né à Nice. Ce dernier s'embarque tout de même à Gênes le 5 mai pour la Sicile, où une insurrection vient d'éclater contre le jeune roi François II qui succède à son père Ferdinand II. Il débarque à Marsala avec 1 millier d'hommes en chemise rouge, d'où le nom donné à cette expédition, l'expédition des Mille. Il s'empare de Palais, puis il franchit le détroit de Messine et se dirige sur Naples que François II quitte le 5 septembre 1860. Le sud de la péninsule se trouve à présent sous contrôle et l'épopée des Mille se termine par la rencontre à Théano, près de Caserte et en Campanie, entre Garibaldi et Victor Emmanuel. Et le Niçois se rallie officiellement au souverain en prononçant cette phrase « Je salue le premier roi d'Italie ». Victor Emmanuel II peut faire son entrée triomphale le 7 novembre 1860 dans la ville de Naples. seule n'appartenant pas encore à l'Italie, la Vénétie, toujours contrôlée par les Autrichiens, et Rome, protégée par les Français, et que Victor Emmanuel s'est engagé auprès de Napoléon III à ne pas annexer. Le 18 février 1861, Victor Emmanuel réunit les députés à Turin, au Palazzo Carignano. Après la tenue de ce premier parlement, un banquet est servi à la cour du roi, auquel participent les parlementaires, les membres du gouvernement, tous les officiels, bureaucrates et ambassadeurs d'autres pays. La journée historique se conclut par une farandole de feux d'artifice tirés depuis l'église de la Gramma del Dio, illuminant le ciel de la capitale. Et alors que la musique des fanfares militaires et des orchestres se diffusent dans les rues et les places de Turin, le roi et Cavour se retrouvent dans les salons après la fête. Et le souverain se tourne vers son premier ministre et lui demande « Qu'en pensez-vous, cher comte, de cette journée dont le ciel nous a fait cadeau ?» Et Cavour de lui répondre « Magnifique, majesté, même si je pense qu'il s'agit d'une récompense méritée, plus que d'un cadeau. » Et tirant un cigare de sa poche, le roi souriant lui répond « Probablement c'est vous qui avez raison. » Le 17 mars 1861, le royaume de Piémont-Sardaigne devient le royaume d'Italie. Victor Emmanuel II prend le titre de roi d'Italie. Et le nouveau pays, unifié, se dote d'une constitution qui se veut libérale, fondée sur celle adoptée par le royaume de Sardaigne en 1848. On attribue au ministre Massimo Dazzeglio une phrase restée célèbre. L'Italie est faite, il reste maintenant à faire les Italiens. Cavour souhaite que Rome soit déclarée capitale, mais le pape Pie IX, qui tient à conserver son pouvoir, s'y oppose, et c'est Turin qui devient capitale du nouvel État. Malheureusement, Cavour ne verra pas arriver l'unification complète. Il meurt le 6 juin 1861.
Il est aussi un personnage dont il faut parler. Il est aussi un personnage dont il faut parler. C'est Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi qui incarne mieux que n'importe quel homme politique les aspirations de la nation italienne entre 1840 et 1870. Il affiche des convictions libérales, plutôt républicaines et anticléricales, proches de celles de Mazzini et de Garibaldi. Mais devant la victoire de Victor Emmanuel II, l'artiste se rallie à une Italie monarchique et devient même député au premier parlement de Turin. Et d'ailleurs, quand le soir le public applaudit en criant « Viva Verdi !» Verdi n'est en fait que l'acronyme de Victor Emmanuel, roi d'Italie, ce que sont loin de se douter les Autrichiens. Ces opéras sont l'écho de la lutte menée par les Italiens pour se libérer du joug autrichien, principalement dans l'opéra de Nabucco, avec le célèbre Va pensiero.
Thank you.
L'établissement pénitentiaire, qui devient le champ de ralliement des patriotes italiens, a même failli devenir l'hymne national du pays. Alors, les premières années d'existence de l'État italien sont difficiles, car le pays traverse une grave crise économique. L'annexion du royaume des deux Siciles dans les régions du Sud provoque une révolte connue sous le nom de brigandage. Il s'agit en fait d'un mouvement armé issu d'une forme de banditisme déjà existant. L'armée royale doit intervenir avec force. On estime 20 000 morts, le nombre de morts. Malgré cela, avec le temps, le Sud commence à approuver le royaume d'Italie en devenant la région la plus favorable à la monarchie de la maison de Savoie. Alors il faut à présent organiser la nouvelle nation. Turin, foyer de la révolution italienne, capitale du royaume de Piémont-Sardaigne, et maintenant capitale du nouvel État italien, a beaucoup donné, et la maintenir dans son rôle de première ville a un parfum de soumission et, disons, de non-rattachement libre consenti. Alors, le choix d'une autre ville s'impose. Rome, bien sûr qu'on y a pensé. Cavour l'avait proposé. Mais cette ville prestigieuse par son passé, à cette époque, est encore une petite ville mal gérée, mal organisée, peu industrialisée, surtout dominée par le clergé, avec à sa tête un pape encore protégé par Napoléon III. Alors, pour des raisons politiques, culturelles, économiques et stratégiques, les députés ont porté leur choix sur Florence. À la fin de l'été 1864, est annoncée la décision de transfert, mais la perte de son rôle de capitale n'est pas du goût des Turinois. Et le 21-22 septembre 1864, ils s'insurgent. Mais ils sont rapidement réprimés par l'armée conduite par le général La Marmora. Et on compte quand même 52 morts, des centaines de blessés et surtout 30 000 des 220 000 habitants, dont une grande partie de la haute société, quitte la ville. La loi est votée le 11 décembre 1864. Et Victor Emmanuel quitte sa ville natale avec un pincement au cœur. Dans la gazette officielle du 3 février 1865, on peut lire « Ce matin, à 8h, Sa Majesté le Roi est parti de Turin pour Florence, accompagné de Son Excellence, le président du Conseil des ministres, le général La Marmora. » On arrive en 1866. À la troisième et dernière guerre d'indépendance qui va achever l'unification de la péninsule. Elle vise à rattacher au royaume d'Italie la Vénétie, encore sous domination autrichienne, ainsi que la région autour de Rome, encore placée sous la souveraineté du pape. Malheureusement, Massimo D'Azeglio, qui aura été un des acteurs de l'unification, ne la verra pas. Il meurt d'une forte fièvre le 15 janvier 1866. Et en juin 1866, la Prusse, qui cherche de son côté à faire l'unification de l'Allemagne, déclare la guerre à l'Empire autrichien. Victor Emmanuel saisit l'occasion pour proposer son aide à Bismarck, l'homme d'État prussien, et cela en échange de la Vénétie. Et les deux États qui voyaient en Autriche un obstacle à leur projet d'unification nationale avaient donc un objectif commun. Et le 24 juin, les Italiens affrontent l'armée autrichienne à la bataille de Custoza, près de Vérone. Bien qu'ils aient subi une défaite, ils réussissent à retenir les troupes autrichiennes sur le front alpin et permettent ainsi aux Prussiens de remporter des batailles importantes. Ainsi, les Autrichiens sont écrasés le 3 juillet à la bataille de Sadowa, en Tchéquie. Le traité d'armistice avec l'Autriche est établi le 12 août à Kormos, dans la province de Gorlitz. Et cet armistice est le prélude au traité de Vienne du 3 octobre qui met un terme à la troisième guerre d'indépendance. Et l'Italie, qui fait alors partie des vainqueurs du conflit, annexe la Vénétie. Alors il ne reste plus alors que la question de Rome, qui reste en suspens. En 1869, le roi tombe malade et, craignant la mort, il s'unit par un mariage morganatique à Rosa Vercellana. Une cérémonie religieuse a lieu le 18 octobre de cette année à San Rossore, près de Pise. Le roi guérit et il confirmera cette union par une cérémonie civile célébrée beaucoup plus tard, le 7 octobre 1877 à Rome. Alors l'année 1870 sera une année décisive. Paradoxalement, c'est la chute du second empire de Napoléon III qui autorise l'achèvement de cette unité. Le départ des troupes françaises de Rome, le 5 août 1870, qui protégeait le pape Pie IX, permet en effet à l'armée italienne d'occuper la ville sans combat, sous prétexte de protéger le pape. Il pénètre par une brèche faite dans les murs d'enceinte de la ville, près de la Porta Pia, et Rome rejoint le royaume d'Italie le 20 septembre 1870. Aux grandes dames, bien sûr, de Pie IX, qui se considère comme prisonnier dans le Vatican. La ville éternelle devient la capitale de l'Italie, en lieu et place de Florence, le 2 octobre 1870. Et le 2 juillet 1871, Victor Emmanuel fait son entrée officielle dans la nouvelle capitale. Giuseppe Mazzini, révolutionnaire et partisan patriote italien, meurt à Pise le 10 mars 1872. Napoléon III meurt le 9 janvier 1873. Et dans le courant de l'année 1877, la santé du roi commence à décliner. Une fièvre due à des rhumatismes fatigue son cœur. Et un jour qu'il est venu à Turin, il visite des travaux en cours à la basilique de Superga, et en parlant avec des ouvriers, il leur désigne un emplacement auprès du tombeau du roi Charles-Albert, son père, et il leur dit ceci: « C'est là que je serai un jour, mes amis. » Son intention de reposer auprès des siens est manifeste. Le 5 janvier 1878, le général Alphonse Lamarmola décède, lui, à Florence, à l'âge de 74 ans. Et ce même jour, au retour d'une promenade en carrosse, Victor Emmanuel tombe malade et son état s'aggrave brusquement. Ses médecins, appelés à son chevet, se montrent impuissants devant le mal. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, sentant sa proche fin venir, le roi, encore lucide, salue ses enfants et les personnes présentes et leur murmure dans son dialecte piémontais qu'il aime tant ces quelques paroles: Oh mi povrum, cam dispias, lasse l'Italia in cus pastis. En français, pauvre de moi, comme je suis malheureux de laisser l'Italie dans un tel pétrin. Alors Victor Emmanuel meurt le 9 janvier 1878. Et coïncidence, le jour de l'anniversaire de la mort de Napoléon III. Les journaux de l'époque sont unanimes pour reconnaître que ce n'est pas un deuil uniquement pour l'Italie, mais aussi pour la France et pour l'Europe tout entière. Même dans les villages les plus reculés d'Italie, la mort du roi est vécue comme un drame familial.
À Sanfronte.
Comme on a pu le vérifier en consultant les archives de Sanfronte en Haute-Vallée du Pô.
Voilà. Le village de mes parents, où sont originaires mes parents, j'ai trouvé dans les archives, justement, j'ai trouvé des lettres de Cordoglio de 1878. Il y en a plusieurs, là on n'en a mis que deux, mais.
Rosa Vercellana.
Originaire de là.
Rosa Vercellana meurt 7 ans plus tard. Le 26 décembre 1885, rejetée par la noblesse et la haute bourgeoisie, elle a plutôt été aimée par le peuple pour ses origines simples. Et on dit que la chanson populaire du Risorgimento, la belle Gigugi, fait en réalité allusion à elle. Je vais vous la faire écouter.
En piémontais.
Jamais porté le titre de reine, elle ne peut pas reposer au Panthéon près de la dépouille du roi. Alors par réaction, ses enfants font édifier à Turin une réplique du Panthéon à petite échelle. Et en 1972, ses restes sont transférés au cimetière monumental de Turin. Alors qui est donc Victor Emmanuel II, ce roi galantome? Après cette passionnante histoire de la naissance d'une nation, intéressons-nous à celui que l'on appelle le père de la patrie et à l'homme qu'il est. À l'annonce de sa mort, la reine d'Angleterre, Victoria, écrit dans son journal « C'était un homme étrange, hors norme et souvent débridé dans ses passions, surtout pour les femmes, mais un soldat courageux, au cœur généreux et honnête, avec beaucoup d'énergie et de force. » Elle avait bien compris cet homme, un grand soldat, un bon diplomate. Un homme doté d'un grand courage, mais aussi sensible et généreux. Généreux, il est aussi avec la gente féminine. On raconte volontiers que lors de ses parties de chasse en montagne, il était aussi un bon chasseur de jupons et qu'il aurait ainsi anobli un nombre de jeunes et jolies paysannes. Alors Victor Emmanuel, ce roi galantome, un jour son ministre d'Azeglio lui fait cette proposition. Les rois galantomes ont été si peu nombreux dans l'histoire que ce serait vraiment beau d'en commencer la série. Dois-je faire le galant homme ? Lui demande le roi. Et à Sergio de lui dire « Votre Majesté a juré fidélité au statut, a pensé à l'Italie et non au Piémont. Continuons sur cette voie à tenir pour acquis que dans ce monde, un roi, tout comme un individu obscur, n'a qu'une seule parole et qu'il faut s'en tenir à cela. » Alors Victor Emmanuel lui rétorque sûr de lui « Eh bien, le métier me paraît facile. » Ce à quoi Dazier lui ajoute « Et le roi galant homme, nous l'avons. » D'ailleurs, Victor Emmanuel se complaît d'avoir et de mériter ce titre. Et quand est fait un recensement de la population turinoise en 1861, lorsqu'il s'inscrit sur le registre, à la rubrique profession, il écrit « Ré galant homme ». Il est aussi une autre appellation dont il est fier, c'est celle d'être le premier soldat de l'indépendance italienne. Victor Emmanuel II, c'était un alpiniste et un chasseur. On le voit dès 1841, quand Ferdinand vient à Cogne, dans la vallée d'Aoste, pour chasser dans les montagnes du Grand Paradis. Son goût pour la chasse est très vite partagé par Victor Emmanuel. Bientôt, les massifs alpins n'auront plus de secret pour eux. Lors d'une visite à Étrac et dans la vallée Gesso, ils sont fascinés par l'abondance du gibier dans cette zone des Alpes-Maritimes. Un lieu enchanteur, aussi bien pour son climat salubre que pour ses eaux curatives. En 1857, les communes d'Étrac et Valdieri cèdent au roi les droits de chasse sur les territoires communaux et c'est ainsi qu'est créée la réserve royale de chasse qui, avec le temps, deviendra l'actuel parc naturel des Alpes-Maritimes. La présence de la famille royale entraîne une grande effervescence économique. Les thermes de Valdière sont construits, ainsi que de nombreuses maisons de chasse. Et les Savoies viennent très souvent en vacances, l'été, dans la vallée, apportant des bénéfices considérables à l'économie locale. Victor Emmanuel, le roi chasseur, fut le premier à se préoccuper de la sauvegarde de ces territoires pour des raisons cynégétiques. Sans lui, le bouquetin aurait probablement disparu des Alpes, exterminé par les chasseurs dès le début du XIXe siècle. Le souverain s'émeut de ce massacre, attend pour faire du massif du Grand Paradis, dernier refuge de l'espèce dans les Alpes italiennes, une réserve royale. Sur les massifs du Mercantour et de l'Argentaire, s'apercevant là aussi que les effectifs de chamois ne cessent de décroître et que le bouquetin avait été éliminé, il décide d'y créer une réserve royale de chasse, le 26 décembre 1859. Alors le côté positif des réserves de chasse du roi était non seulement celui de garantir la survie des chamois et la réintroduction du bouquetin, mais aussi de créer des sentiers, des chemins muletiers et des routes, ainsi que des refuges et des maisons de chasse. Ainsi, ces infrastructures posent-elles déjà les jalons des futurs parcs nationaux. Victor Emmanuel est passionné de montagne. Il aime y vivre de la vie du franc montagnard, point de luxe qu'un apparat. Absence absolue d'étiquette. Aussi, les montagnards aiment, ou plutôt idolâtrent, Victor Emmanuel, c'est leur roi à eux. Seul, avec son fusil et son chien, il escalade les rochers, traverse les forêts et les ravins, se contente de quelques rafraîchissements dans les chalets et reprend aussitôt, toujours infatigable, ses excursions après s'être le plus familièrement du monde entretenu avec des montagnards. Ébahi de sa bonhomie et de sa générosité. Au cours de ses séjours, il délivre de grandes quantités d'argent aux maires et aux curés, assure un salaire aux gardes-chasse et aux batteurs, donne une aumône aux pauvres et de généreux pourboires. Il change littéralement la vie des habitants et le paysage de la vallée. Il faut voir combien ces paysans sont étonnés d'apprendre plus tard qu'ils ont eu l'honneur de recevoir le roi et de s'entretenir avec lui. Et cette image du roi chasseur sur tous les territoires alpins d'Aoste, comme de Valdière, de Cassotte, de Rochemelon, etc., nous a laissé bien sûr de nombreuses anecdotes. En voici quelques-unes. Un jour qu'il chasse dans les forêts de Montcagnel, il croise un paysan qui se lamente d'un renard qui fait des ravages dans son poulailler et lui demande de l'en débarrasser. Alors, le roi prend la chose au sérieux, chasse ce maudit renard et le tue. Et le paysan, qui n'en finit pas de remercier ce fameux chasseur qu'il n'a bien sûr pas reconnu, veut le récompenser en lui donnant un écu. Et il incite si bien que Victor Emmanuel l'accepte. Et quand le paysan s'en est allé, il se tourne et dit à son aide de camp : vous vouliez que je le refuse ? Ce sont les premiers sous que j'ai vraiment gagnés. Une autre fois, le roi veut décorer de l'ordre de la couronne d'Italie le bon vieux syndic de Valsavaranche, qui est si heureux de se dire syndic du roi. Mais ce dernier refuse en patois et il dit « Merci, monsieur le roi !» Et comme le roi insiste, il ajoute « Nous, non, à nous autres paysans, cela ne convient pas, c'est pour les habits faits. Mais quand c'est le roi lui-même qui vous l'offre, ah, c'est égal, c'est tout seul, monsieur le roi. Nous autres paysans, nous avons besoin de travailler. Et avec cette déclaration, il faut faire des messieurs. Et nous ne pourrions pas vivre, hein, messieurs. » Alors le roi apprécie et plus tard lui fait parvenir, ça s'indique, un taureau, des génisses, de la plus belle espèce et quelques moutons. Mais cette fois, le syndic n'est pas si délicat et les accepte avec plaisir. Une autre fois, il se retrouve à la cure de Courmayeur, où toute la famille est réunie. Et une paysanne vient porter la provision d'œufs. Elle rencontre sur la porte un individu qui la salue gracieusement en lui demandant ce qu'elle cache dans son panier. L'homme prend le panier, le porte dans la cuisine et revient avec une poignée d'argent. Et la bonne femme, toute ravie, sait que le roi est là et elle demande à cet homme si elle peut voir le roi. « Mais c'est moi !» lui répond l'homme. Alors on le regarde avec des yeux ébahis et finit par lui dire « Oh ! Pour cela, non ! Une si bonne, si belle femme que la reine n'allait pas épouser un homme si beurt !» Le roi, quand c'est bien lui, avec sa grande moustache, lui donne encore quelques argent, le convivial, et puis s'empresse d'aller demander à quelques paysans ce que signifie le mot beurt. Cela veut dire pas beau, laid. Alors, le roi s'en va en riant, raconter l'histoire à la reine, et il se plaisait encore longtemps après à répéter cette anecdote. Alors, il aime bien souvent se fondre dans la foule pour en entendre les critiques et pouvoir y répondre lui-même. Et pour le premier anniversaire des statues, vêtu simplement de ses habits de chasseur, il entre un soir dans une brasserie à Piazza San Carlo à Turin. Et dans le local, il y a quelques habitués qui arrosent l'événement en criant « Vive le roi, vive les statues !» Victor Emmanuel est assis à une table, commande une boisson. Sitôt consommé, il se lève et avant de sortir, il se tourne vers le groupe et crie « Vive la République !» Ça suit évidemment une échafouée et il doit son salut à un ouvrier qui prend sa défense et qui calme ses camarades en leur disant « Ma, non mais détecté, ma, attends !» Mais oui, il n'est pas qu'il est fou. Ben ça, c'était bien lui, c'était Victor Emmanuel, un personnage hors du commun, atypique dans la lignée des Savoies, un homme empreint de simplicité et de grandeur. Les honneurs ont été rendus au roi, son fidèle petit royaume de Piémont, berceau de sa maison, Turin, cette belle bonne ville natale, revendique ses cendres et veulent qu'il repose auprès des siens sur la colline de Superga, comme lui-même le désirait. Seulement Francesco Crispi, qui est alors ministre de l'Intérieur, accueille fort mal les députés turinois en leur disant que le roi appartient à l'Italie. Et bien que Umberto Primo, le nouveau roi, ne soit pas d'accord, on assigne au roi des feux le Panthéon de Rome comme tombeau. C'est pour les Piémontais et surtout pour les Turinois une décision difficile à pardonner et à oublier, et qui sûrement encore est en sommeil au fond de leur cœur. Alors c'est peut-être pour apaiser leur rancœur que Umberto Primo propose à la municipalité de Turin de poser une plaque pour rappeler sa naissance au Palazzo Carignan. Au cours des années qui ont suivi, bien sûr, les hommages ont continué à être nombreux. Des statues ont été érigées un peu partout dans les villes du pays. On nous représente souvent à cheval. Hein. Le souvenir du roi est très fort dans le cœur des Italiens et surtout des Piémontais, bien sûr. Le musée national du Risorgimento de Turin est le plus important des musées historiques italiens. Il a été créé en 1878 et il est le premier, le plus grand et le plus important, le seul à l'échelon national des 23 musées du Risorgimento recensés en Italie de par la richesse de ses collections. Initialement installé dans la Mole Antonelliana, il est transféré en 1938 au Palais Carignan, où il se trouve encore aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir tant parlé, avoir tant écrit, tant manifesté de passion pour ce personnage? Pourquoi est-il le plus populaire de tous les membres de la Maison de Savoie, dernier roi de Piémont, premier souverain de l'État unitaire? Il est placé au rang des pères de la patrie parmi les artisans du Risorgimento. C'est sans doute celui dont la personne et l'action ont subi la révision critique la plus approfondie. Il s'est investi sans limite dans l'unification de l'Italie, a combattu valeureusement. Il a su rallier autour de lui des personnages aux idéaux différents, mais pour une cause commune. Qu'ils aient été plus ou moins modérés, comme Cavour ou Massimo D'Azeglio, ou carrément révolutionnaires comme Mazzini ou Garibaldi. Il présente certes, avec son père tout comme avec son frère Ferdinand, le plus grand contraste physique et moral. Certains traits de sa personnalité le rendent sympathique et lui valent une large popularité, une carrure robuste, d'énormes moustaches, une grande simplicité de manière, un goût des exercices violents, avant tout un soldat, à la bravoure physique indéniable, conscient de son rang et de l'ancienneté de sa maison. Son esprit chevaleresque, ses bonnes fortunes amoureuses en font, aux yeux du peuple, le roi galantuomo, brusque et primesautier, comme en témoigne le style de ses lettres. Il est à l'image de l'Italien, surtout du Piémontais. Alors en conclusion, pour dire que si Victor Emmanuel II avait été grand et svelte comme son père, au lieu d'être petit, trapu, un tant soit peu disgracieux, en tenue de chasseur, mangeant du saucisson ou de la tomme, croquant des oignons crus et trinquant un pimenté avec un verre d'eau rouge. Et tout cela au lieu de fréquenter la cour et de se plaire dans les réceptions mondaines, s'il n'avait pas été si bon cavalier et si bon guerrier, croyez-vous que l'Italie aurait réussi son unification de la même façon et que les Italiens l'auraient nommé avec fierté père de la nation? Il occupe une place à part dans son siècle. Sa supériorité ne fait ombrage à personne. Gai, bon vivant, généreux, d'humeur douce, doué de cette finesse inhérente à tout Italien, on peut dire qu'il a bien compris les hommes de son temps et qu'il a su rassembler son peuple pour le conduire à la réussite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce personnage qui a marqué la péninsule italienne et que l'Italie lui doit beaucoup, puisque hein, c'est lui qui a été, avec d'autres personnes bien sûr, qui a été à l'origine de cette unification. Voilà, je vous remercie.